Bienvenue au balado-diffusion de Église M. Votre opinion est importante pour nous, alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante. info@commercialeglisem.com info@commercialeglisem.com
Aujourd'hui, on termine cette série-là, généreux point. Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Et là, peut-être que vous vous êtes dit, bon, vous avez peut-être été écouté les deux premiers messages, puis vous vous êtes dit, ben, les deux premiers étaient pas trop mal. Peut-être que ça va être correct, ça va être pas si plate que ça finalement, peut-être pas aussi plate que je pensais cette série-là. Donc j'ai hâte de voir comment ça termine cette belle série qui a été faite. Série qui va probablement pas être dans le sens que vous avez anticipé au départ, vous avez peut-être été surpris de quelques petites affaires, mais surtout j'espère que vous avez été rempli d'espoir et que ça puisse apporter une liberté dans votre vie. Parce que souvent ce genre de message amène une certaine culpabilité, mais mon but était pas d'emmener ça, mais bien plutôt de comment la parole de Dieu nous libère, nous affranchit ou nous rend libre dans notre réalité de toutes les facettes et souvent dans des domaines qu'on cherche à éviter ou qu'on veut pas vraiment discuter. Puis ce que je veux vous encourager à faire, c'est vraiment ça, c'est de faire face à ces défis-là ou à ces sujets-là dans votre vie et dans votre relation avec Dieu. Aujourd'hui, le titre du message, c'est la mesure du progrès. En commençant, j'aimerais juste pendant un instant, suivez-moi. J'aimerais ça que vous puissiez juste mesurer, ou pas mesurer, mais réfléchir à ce que vous mesurez dans votre vie. Toutes les choses que vous mesurez ou vous suivez. Tu sais, exemple, peut-être vous avez une montre qui calcule vos pas ou votre rythme cardiaque, ou tu sais, ce genre d'affaires. Quelque chose qui mesure votre réalité, des situations où lesquelles on mesure un paquet de choses parce que peut-être que vous avez vu cette montre-là parce que le docteur a dit que faut que tu checkes tes affaires pour atteindre, reste en forme. Ils disent les 10 000 pas par jour. Donc, faut que tu calcules tes pas. J'étais à 9 800. Donc, si je me rends au frigidaire une couple de fois, je devrais être correct. Je devrais m'en rendre à 10 000. Non, mais toute cette réalité-là de calculer ou de mesurer ces choses-là. Et je sais pas si vous réalisez, mais à tous les jours, vous mesurez plein de choses. Tout le temps. Où vous faites le suivi de certaines affaires tous les jours, tous les jours. Quand vous embarquez dans votre voiture, vous mesurez votre vitesse. Vous regardez à quelle vitesse vous allez. Pas parce que vous voulez la dépasser, parce que vous voulez pas avoir de... Exactement. Vous voulez pas avoir une étiquette. Donc, vous mesurez, vous regardez, ah ouais, vous mesurez le kilométrage de votre voiture, vous dites, ah, ben j'ai fait tant de kilomètres, vous évaluez ce que vous avez. On mesure constamment. Quand tu vas au docteur, là, c'est quoi la première chose qu'ils font? Ils vous pèsent. Ils prennent votre pression. Ils mesurent où vous êtes. Et vous me suivez? Ils prennent, c'est des mesures. On en fait constamment des mesures. Et pour les enfants, tiens, peut-être qu'ils font aussi avec vous autres la charte, pas la charte, mais la, ils prennent votre cholestérol. Le cholestérol. Hein? Vous avez jamais entendu parler de ça? Vous aviez l'air comme, de quoi il parle? Cholestérol? Quel est ce mot? Le cholestérol. Et ils font aussi pour des enfants. Moi, je me rappelle quand mes filles étaient plus jeunes, on allait chez le pédiatre. Et ils font ce qui s'appelle la courbe de croissance. Ils vérifient comment l'enfant grandit. Prends-tu le bon poids? Prends-tu la bonne grandeur? Ça se développe. Ils mesurent. On mesure constamment dans la vie des choses. On fait le suivi de plein d'affaires. Et comme je vous dis, on le fait avec plein de choses dans notre vie, et surtout avec les choses qui sont importantes ou qui ont une grande valeur pour nous. On mesure où ce que c'est rendu. On regarde comment ça progresse. Donc, en terminant cette série-là aujourd'hui, je vous pose une simple question, une question super simple. Comment mesurer si je suis généreux? Comment je peux mesurer si je suis généreux? Comment est-ce que je peux faire ça? Comment, quelle manière? Avez-vous déjà réfléchi à ça? Imaginez, est-ce qu'il y en a qui ont, peut-être vous êtes pas familier avec ça, mais il existe les gens qui ont du diabète. Ils doivent prendre les piqûres au master, ils ont des languettes, là. Oui, ils ont le petit pip-pip, là. Il y en a qui ont pas ça, c'est une petite patente, ça fait juste prendre la mesure du sucre dans ton sang. Et si on en avait une dans notre vie qui faisait pip, qui mesurait notre générosité? Où on est rendu. Moi, ma seule question à savoir, c'est est-ce que vous voudriez le prendre, ce test-là? On veut-tu vraiment avoir la réponse? On veut-tu savoir ce que la machine va dire? Premièrement, vous comprenez que comme les maladies du cœur sont les principales causes de mortalité dans le monde, si je disais que mesurer votre générosité est tout aussi important pour éviter la cause numéro un des maladies du cœur spirituellement. La même chose. Vous savez, vous vous souvenez dans le dernier message, j'avais une phrase que Jésus dit, « Car là où est ton trésor, ton cœur suit. » Vous vous souvenez de ça ici, là? Vous vous souvenez de ce beau petit cœur-là, là? « Là où ton trésor est, ton cœur suit. » Et Jésus avait utilisé le mot « cardia ». Cardia, qui est le sens du centre de quelque chose, le noyau, où est-ce que ça tout se situe au cœur de... Et Jésus, quand il a mentionné ce mot-là, il fait pas référence simplement au cœur physique, mais à tout ce qu'on est, tout notre être entier. Et c'est important de mesurer combien on garde pour nous et combien on renvoie vers Dieu, son Église ou les autres, peu importe, parce que c'est critique, ça. Parce que ça... Si on ne mesure jamais, tu ne sais pas où est ton cœur en relation avec Dieu. Tu ne sais jamais à quel point ça a un impact et comment ça prend de la place dans ta vie. Tu ne sais pas. Tant que tu ne le mesures pas, tu peux pas le savoir. On pense que... Et c'est souvent comme ça. Quand on vous dit, « Ah, je vais voir chez le médecin, je suis en santé. » Tu arrives chez le médecin, il te fait un diagnostic, tu fais, « Je pensais pas que j'étais pire que ça. Je me sentais mieux que ça. Je me pensais en meilleure condition que ça. » On est souvent mauvais juge de nous-mêmes. On a souvent de mauvaises façons, perceptions d'évaluer notre propre vie. C'est pour ça qu'on a besoin de choses précises pour nous évaluer, pour nous guider, pour nous diriger. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est comme ça. Elle change pas, elle est immuable. Elle nous permet de pouvoir mesurer. Elle nous permet de pouvoir regarder notre condition. Et quand tu mesures ta générosité, au bout du compte, tu mesures à quel point ton cœur est connecté à tes richesses ou à Dieu. Vous me suivez jusque-là? Donc, tu es en train de faire ça quand tu fais ça. Et là, il y en a qui se posent, pourquoi la table est de côté? Je sais qu'il y a plein de... Vous dire tout de suite, c'est pour les gens qui nous écoutent en direct, parce que si on tasse la table, ils voient pas la moitié de la table, eux autres ici, en ce moment, là. Ouais, ça, là. Les autres, vous autres, là, ici, c'est le PowerPoint qui est là. Fait qu'ils voient pas qu'est-ce qu'il y a sur la table. C'est pour ça que la table est sur le côté. Je suis content d'avoir répondu à cette interrogation que je voyais dans vos têtes. Mais qu'est-ce que l'on peut ou l'on peut vraiment mesurer? Est-ce qu'on peut vraiment faire ça, mesurer la générosité dans la vie de quelqu'un? Est-ce que c'est faisable, premièrement, de faire ça? Et moi, je crois que Jésus nous donne la réponse. Je suis convaincu que Jésus nous donne la réponse dans une histoire qui se retrouve dans Marc au 12e chapitre et dans Luc 21, qu'on va regarder plus tard dans Marc 12, mais c'est sensiblement la même histoire dans Marc 12 et Luc 21. Et on va regarder ce texte-là tantôt et... On va se mettre dans l'histoire. Vous savez comment moi j'aime ça? Ce que j'aime, c'est comme si on était sur place. Comme si on participait dans l'histoire, puis qu'on faisait partie des disciples avec Jésus, puis qu'on était à côté de lui. Moi, j'aime m'immerser dans l'histoire. J'aime ça qu'on soit dedans. Et ce que je veux faire, c'est de juste vous expliquer pour vous mettre en contexte, pour bien comprendre l'histoire, puis qu'on puisse bien se placer dedans. Pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et là, je veux que vous compreniez que le texte qu'on va lire, c'est la dernière semaine de Jésus avant sa crucifixion. OK, c'est les derniers jours avant sa crucifixion qui va se situer le vendredi. Mais l'histoire qu'on va regarder se situe le mardi, juste quelques jours précédents. Vous me suivez jusque-là? Chronologiquement, vous comprenez dans l'histoire, on se trouve. On est à quelques jours, c'est à la fin. Lui, il sait. Lui, il est au courant. Mais les autres le savent pas. Personne, en fait, même s'ils le savent, parce qu'il leur a dit, je sais pas combien de fois, ils le croient pas puis ils s'en doutent pas. Mais Jésus leur a dit ouvertement, je vais être crucifié. Oui. Mais tout le monde dit, non, ça arrivera pas, voyons donc. C'est pas demain que ça va se passer. Et Pierre, il fait comme, voyons donc, je pense que je vais laisser faire ça. Pierre, qui parle plus vite que son ombre, c'est la réalité qui se passe. Et c'est cette dernière semaine-là. Et ce que je veux vous comprendre, c'est qu'il va donner à ses disciples les choses que lui considère les plus importantes à se souvenir. Dans cette semaine-là, il va leur donner des choses vraiment particulières à retenir. Et cette histoire-là se trouve le mardi. Il va apporter ses disciples avec lui au temple. Ils vont s'en aller au temple. Et ils vont s'en aller au temple pour aller observer. Et quand ils vont arriver au temple, ils vont se placer à un endroit bien spécifique. Et je vais vous montrer où est-ce qu'on se trouve. On peut avoir la prochaine image, s'il vous plaît. Non, le temple, on a-tu le temple? Voilà. Voici. On se trouve dans la région qui est surligné en orange, là, qui est la première partie du temple où les femmes avaient accès. OK, on se trouve dans cette section-là. Ça, c'est le temple d'Hérode à l'époque. Et Jésus s'en va à cet endroit-là avec les disciples. Et il va rentrer à l'intérieur, et à l'intérieur, vous voyez, il y a comme des pleins de petits séparateurs, là. À l'intérieur de ça, il y a des gros, gros vases. Des gros vases immenses en forme de trompette. C'est fait en forme de trompette. Et regardez bien la prochaine image. On peut avoir la prochaine image. Je pense que c'est celle-là que vous avez présentée juste. Et voilà. Alors, regarde, vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça a de l'air, là? Vous voyez l'idée de la forme de la trompette où le haut, il est comme une espèce de vase qui va vers le haut, puis ça descend dans le bas. Cette réalité, je veux vous compreniez pourquoi c'est en forme de trompette. C'était volontaire. C'est pour que quand tu déposes l'argent, tu peux pas retourner la chercher. Ce que tu as donné, tu peux pas le reprendre. Ta main rentre pas pour retourner chercher. Et vous oubliez pas une chose, à l'époque, tout est en pièces de monnaie. Il y a pas de papier, il y a pas de carte de crédit, il y a pas de carte débit, il y a rien de ça là. Il y a pas de virement là, c'est juste de la monnaie. Et la monnaie se situe de l'or jusqu'au cuivre. Le cuivre étant le moins de valeur. Donc, vous avez or, argent, bronze, cuivre. Vous me suivez? Donc, c'est des pièces. Et on les jette dans cette espèce de trompette-là ou cette forme de trompette-là. Et pour qu'on ne mette pas les mains dedans pour aller rechercher, donc c'était fait de cette forme-là. Et là, on oubliez pas, on s'en va dans l'histoire avec Jésus. Nous, on rentre, là. Jésus s'en va avec ses disciples, c'est nous autres, ça. Et Jésus va dire ceci. Il commence ceci en disant, en Marc, au 12e chapitre, le verset 41. Puis Jésus s'assit en face des troncs à offrande du temple, ce qu'on vient de voir, et il regardait comment les gens y déposaient de l'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Le mot « regardait » qui est là, je pense que je l'ai-tu mis sur le diapo? Je l'ai mis. « Regardait », c'est « théoréo », qui veut dire « regarder attentivement, poser son regard sur » ou « examiner ». Ce que Jésus, il dit à ses disciples, il dit « venez avec moi au temple, on va aller ouairer ce que le monde y met ». C'est les ouéreux d'Amérique, mais ça, c'est des ouéreux d'Israël. Non, mais vous comprenez, ce qu'il fait, là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il a dit, on va aller regarder ce que le monde met dedans. Wow! Jésus, ça me surprend cette phrase, Jésus, de dire, on va aller scruter ce que le monde met dans les trompettes ou dans les vases. Moi, j'aurais dit, Jésus, c'est pas, j'aurais eu un malaise. Tu veux vraiment qu'on aille faire ça? T'es-tu sérieux? Tu veux vraiment qu'on s'en aille au temple devant tout le monde, qu'on aille regarder ce que les gens mettent dedans puis qu'on les observe? Jésus leur dit, viens, on s'en va observer ce que le monde met dedans. Ouais. OK. Oubliez pas, on est dans la semaine de Pâques. Donc, c'est la semaine la plus achalandée de toute l'année à Jérusalem. La ville, la population normale, j'ai fait beaucoup de recherches, la population normale de Jérusalem tourne autour de 60 000 personnes habituellement. OK? Durant Pâques, ça s'approche du million de personnes qui viennent à Jérusalem. Vous imaginez comment il y a du monde en ville? Il y a du monde à messe? C'est de là que ça vient, ça. Non. Et c'est pour ça qu'à la fin du passage, les gens de partout venaient pour la Pâque. Faut que vous compreniez, toutes les gens qui viennent de partout, Jésus s'en va regarder des gens qui viennent de partout venir mettre, les autres sont de passage dans la ville. Là. Et ils s'en viennent déposer leurs dîmes, leurs offrandes dans ces troncs-là, ou ces vases-là. Et là, Jésus dit à ses disciples, venez-vous-en les gars, on s'en va observer, on s'en va scruter ce que le monde met. On va aller regarder ça. Venez-vous-en, on va le regarder. Ouf! OK. Mais comment, tu sais, parce que là, on voit l'histoire se dérouler, puis on voit parce qu'il dit, de nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Il a dit qu'ils mettaient bien des affaires dedans. Ils sont capables de le voir. Ils voient qu'ils mettent beaucoup d'argent dedans. Comment est-ce qu'on sait ça? C'est une excellente question. Comment on sait que quelqu'un a mis une grande quantité d'argent? On va dire, oh, ben, il a mis beaucoup de scènes. Ouais, mais comment tu sais que c'est beaucoup d'argent, ça? Comment tu peux savoir ça? C'est facile. Avant qu'on ait tout le papier puis les cartes, toutes les patentes, comme je dis, il y avait ces pièces-là. T'entends le son du métal tomber dans les boîtes. Et les métaux ne sonnent pas toutes pareilles. On entend la différence du cuivre et de l'or. Ça sonne pas tout pareil. Et ils ont pas la même épaisseur. Ils sont très différents. Donc, si je me prenais on se fait un petit contexte, OK? J'ai trouvé un vase. Oui, Agathe, c'est... Et j'ai mon pot de change de la maison que j'ai emmené. Et j'ai des scènes différentes là-dedans. Tu sais, des 5 sous, des 1... J'ai encore des 1 sous là-dedans. Ouais. S'il y en a qui en cherchent, là. J'ai 1 sou ici. Non, parfait. Yeah. Et imaginez pendant un instant, OK? Je vais juste prendre une mise en contexte. Que quand le son du métal tombe, il savait que, mettons, si on prenait ça, des 5 sous comme ça, écoutez bien. Je venais de mettre 5 000 $. C'est vrai? 5 000, c'est plus que 10 pièces. C'est 10 pièces. 10 000? 10 000. Et si je mettais 100 000? Je viens de mettre 100 000. Tu l'entends par le son, la quantité qui est tombée, puis tu entends aussi par le son le type qui est tombé. Jésus, dans Matthieu 6, c'est ce qui est super intéressant, c'est que dans Matthieu, au 6e chapitre, peut-être que vous avez déjà lu cette histoire-là, Jésus va parler d'une histoire où il va dire, « Ne faites pas comme certaines personnes qui, lorsqu'ils donnent, font sonner les trompettes. » Jésus fait un jeu de mots. Il est en train de parler de ces vases-là qui les font sonner. Tu montes à tout le monde, regardez ça. J'en mets de l'argent, moi. Regardez, écoutez l'argent, tout ce que je mets dedans, là. Jésus fait un petit jeu de mots. Pas des trompettes qui sonnent, malgré que ça s'appelle la même image. Mais en réalité, il est en train de faire un jeu de mots avec ça. Il est en train de parler de cette réalité-là. Et Jésus est pas impressionné. C'est ce qui est assez spécial, c'est que Jésus regarde même pas tout le monde qui donne. Il regarde une vieille femme. Regardez bien au verset 42. Ça dit ceci, ça dit... Une veuve pauvre arriva et mit 2 petites pièces de cuivre d'une valeur de quelques centimes. Ouf! Plus petite pièce possible. Je me suis emmené. En fait, c'est aussi mince qu'un pic de guitare en cuivre. Et le bruit, là, écoutez. Ça impressionne pas grand monde, hein? Et Jésus dit, et regardez bien ça, verset 43. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, hey, je vous le dis là, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a mis dans le tronc plus que tous les autres. Imaginez la réaction des disciples. Thomas qui dit, te crois pas. Mathieu a peut-être dit, j'ai calculé, puis c'est pas ça que c'est demain que ça marche. Pierre, il fait, non, Jésus, voyons. C'est pas de même. Imaginez pendant un instant, plus que toutes les autres. Les disciples sont dans la confusion, eux autres, là. Eux autres font comme, qu'est-ce qu'il dit, là? Il a pas vu, il a pas regardé la bonne place, Jésus, là. Jésus a pas checké son affaire. Peut-être que, comme je disais, Matthieu, le collecteur d'impôts, lui, est pas d'accord avec Jésus, puis il calcule son affaire, puis il dit, non, pas comme ça, ça marche. Et regardez bien, verset 44, ça continue. Jésus va dire ceci, car les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin, mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait, tout ce dont elle avait besoin pour vivre. Les disciples savaient combien les gens donnaient. Ils savaient, on l'entendait. Ils savaient. Ah, lui, ça sonne. As-tu entendu, lui? Lui, ça a sonné longtemps. Il l'a rempli, le tronc. Lui, c'est lui qui a donné. Lui, winner! Puis Jésus dit, hey, gang, non, arrêtez d'écouter tout le monde. Venez-moi. Regardez, elle. Elle a donné plus que toutes les autres. Les disciples sont comme... Et Jésus essaie de leur amener quelque chose. Jésus savait le pourcentage des dons qui avaient été donnés. Imaginez que Jésus a cette discussion-là avec Matthieu. Parce que Matthieu fait comme, moi, je calcule, parce que le collecteur d'impôts, il connaît l'argent, il connaît son affaire, puis lui, il fait, ben non, pas elle qui a donné le plus, Jésus. Et Jésus dit, OK, on va regarder ça ensemble, Matthieu. Mettons qu'on a ce qu'on veut, cette conversation-là. Matthieu, on va regarder le montant donné, le revenu, puis le pourcentage. OK, on va regarder, regardez bien ça. On va regarder le montant qui a été donné, le revenu que la personne a là, puis le pourcentage que ça représente. Prenons un exemple du premier, qui a donné 3 000 $, mais c'est un revenu de 30 000, c'est 10%. OK. Mais si on arrivait à l'autre après, il a donné 6 500, mais son revenu, c'est 90 000. Lui, il a donné 7,5% de son revenu. Qui a donné le plus? Celui qui a donné 3 000? Est-ce que vous me suivez? OK, on continue. Regardez bien, le prochain. Mettons, il donne 25 000. Wow! Mais il gagne 800 000 piastres par année. Il a donné 3,1%. Mais 25 000, mais Jésus, 25 000. C'est de l'argent, Jésus. C'est lui qui a donné le plus. Regardons le dernier. 60 000. Mais il a 250 000 piastres de revenus. Il donne 24% de son salaire. Ce que Jésus est en train de montrer à ses disciples, c'est que vous ne comptez pas les bonnes affaires. Vous écoutez les montants qui sont donnés. Moi, je regarde la proportion qui est donnée. C'est pour ça qu'il dit, elle a donné de ce qu'elle avait besoin. Les autres, c'était le superflu. C'était l'excédent. Elle a donné quoi? Prochaine diapo. 2 pièces de cuivre. Son revenu, 2 pièces de cuivre. C'est quoi ça? C'est 100%. C'est pour ça que Jésus dit, elle a donné plus que toutes les autres. C'est elle qui a donné le plus. Et les disciples d'être stupéfaits, mais voyons donc. Mais la réalité, c'est que l'être humain, encore aujourd'hui, on vit dans une culture qui s'intéresse à la première colonne. Combien t'as donné? Le montant. Et non pas le pourcentage. Et voici ce que Jésus a voulu enseigner dans ce passage-là. C'est ceci. Prochaine diapo. Dieu ne regarde pas au montant que tu donnes, mais au pourcentage que ça représente. Peut-être que quand tu donnes la dîme, t'es fidèle, puis t'as l'impression que c'est pas grand-chose comme montant. Dieu ne pense pas comme ça. Dieu ne pense pas de cette manière-là. Dieu ne regarde pas le montant donné. Il revient avec ça ici. Cette partie-là. C'est à quoi que c'est attaché dans ta vie? C'est à quoi que c'est lié? C'est quoi que tu donnes? Et parfois, on pense que, et ça, je le sais, je l'ai pensé, j'étais convaincu, mais c'est faux. On se dit, ouais, mais je donne un montant fixe et ton revenu est beaucoup plus haut que ce que tu donnes. Et à un moment donné, tu réalises, tu dis, finalement, c'est pas si généreux que ça ce que je suis en train de faire. Je pensais que je l'étais, mais je le suis pas vraiment. Et là, on commence à réfléchir. Et là, on pense, on se dit, OK, mais mec, je gagne plus d'argent, je vais en donner plus. Je vais vous dire tout de suite, c'est totalement faux. C'est tout, 100% des études faites prouvent le compte, démontrent que plus tu gagnes de l'argent, plus c'est difficile de donner un plus haut pourcentage. Ça me rappelle cette histoire-là du jeune homme qui était dans une église, il disait à son pasteur, mon pasteur, je gagne 50 $ par semaine, puis à chaque semaine, je donne mon 5 $ fidèlement à Dieu, de dîme, et là, il dit, mais je prie pour avoir un autre travail. Et quelques semaines plus tard, il arrive à son pasteur, il dit, j'ai eu un travail extraordinaire. Maintenant, je gagne 500 $ par semaine. Je suis pas capable de donner 50 $ par semaine à Dieu. Pasteur, aide-moi, qu'est-ce qu'il prie pour moi? Aide-moi, prie pour que je sois capable de donner ma dîme à Dieu. Et le pasteur lui dit, oui, je vais faire... Et il commence à prier, Seigneur, je te prie que tu lui redonnes son ancien job. C'est intéressant, c'est que le New York Times, rien à voir avec le christianisme, a sorti cette étude-là sur des gens qui gagnaient 25 000 $ et moins versus les gens qui gagnaient 75 000 $ et plus. Et voici les résultats. Ceux de 25 000 $ et moins donnaient en moyenne 4,2% de leurs revenus en dons. ceux qui gagnaient plus de 75 000 $ par année donnaient 2,7. Pourquoi c'est si difficile de donner la dîme plus tu gagnes de l'argent? À cause du montant. Donner 5 piastres, va payer. Donner 50 piastres, wow. Non, mais c'est ça pareil. T'sais, si tu gagnes 25 000 piastres par année, ça veut dire 2500 piastres que tu donnes à Dieu, ça équivaut à 48 piastres par semaine à peu près. 48 piastres, bon, 48 piastres. Mais si tu gagnes 250 000, là, c'est 480 piastres par semaine. Oh, oh, t'as une minute. Tu peux faire bien des affaires avec ça. Tu peux aller dans bien des voyages avec ça. Tu peux en faire des choses. On fait face à ce problème-là. Tu fais face à ce problème-là quand plus tu gagnes, plus ça devient difficile. Et Forbes a donné cette citation-là. Dans le magazine Forbes, il y avait cette citation de John D. Rockefeller. Vous savez, l'homme riche. Il a dit, « Je n'aurais jamais pu donner la dîme du premier million de dollars que j'aurais jamais gagné si je n'avais pas donné la dîme sur mon premier salaire qui était de 1,50 $ par semaine. » J'aurais jamais été capable si j'avais pas pris le principe dans le temps où ce que c'était plus facile. Souvent, on se dit, « Oh, mais plus ça va aller, je vais arranger les choses. » Dieu a toujours dit, « Commence à être fidèle dans les petites choses, puis je vais t'en confier des grandes. » Non, je vais être fidèle, mais tu me donnes des grandes affaires. Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le caractère se développe quand il n'y a pas d'enjeu. Tout le temps. Le caractère se développe quand il n'y a aucun enjeu. Savoir, ben là, j'ai pris ça à mon patron, c'est pas bien, bien grave, ça paraîtra pas, personne ne va s'en rendre compte. L'intégrité. Aucun enjeu. Je prends des stylos à ma job. Ah, c'est pas grave, personne s'en rend compte. Oui, quelqu'un s'en rend compte, je vais te le dire. Dieu s'en rend compte. Ouais, mais là, quand même, là, tu sais, il y en a plein qui le font. Ouais, mais la référence, c'est pas les autres. C'est Jésus. J'aime pas, pasteur, quand tu fais ce genre de phrase-là. Si c'est la manière que Dieu regarde la générosité, c'est quoi être généreux? Je suis content que tu poses la question. Merci de me poser la question parce que, justement, je vais préparer cette réponse-là. C'est quoi être généreux? Dans le mieux, dans la meilleure façon que j'ai cherché de l'apporter, je vais tenter de le résumer en une seule phrase. Je vais l'expliquer après. C'est ceci. La générosité est un pourcentage et c'est progressif. La générosité, c'est un pourcentage et c'est progressif. Mais c'est quoi cette histoire-là de 10% de la dîme? On pourrait bien, c'est quoi cette affaire-là? Et ce que je vais vous dire maintenant pourrait vous jeter par terre, même si vous êtes assis. Écoutez bien ça. Donner la dîme, 10%, que Dieu demande, c'est un point de départ. Peut-être tout le monde pensait que c'est là qu'il faut qu'on se rende, là. C'est le point de départ. Et moi, j'ai souvent eu ces discussions-là avec des gens qui disent « Oh, mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. » T'as tellement raison. T'as tellement raison. Tu veux qu'on prenne le Nouveau Testament? Oui. Jésus a tout donné pour lui, pour nous. Il nous a dit de tout lui donner. Préfères-tu le 10 ou le 100? On commence-tu là? Non, mais c'est souvent... Oh, mais ça, c'est souvent notre échappatoire. Puis j'en parle, puis je sais comment on se sent quand on est assis là. Je sais que je l'ai... Il me l'a prêché cette semaine. Pas des blagues. Mettons, OK, je vais faire une histoire. Mettons, ça c'est vraiment une histoire, là. Mettons que je suis devenu le plus riche de tous les temps. L'homme le plus riche qui a jamais existé, qui a, en fait, le premier trillionnaire. C'est vraiment une histoire. C'est ça. Ben oui, c'est une histoire. Okay, moi, j'ai des trillions de dollars. Pas des milliards, j'ai des trilliards de dollars. J'ai encore plus que ça. Et que je décide de partir dans un voyage dans l'espace pendant 25 ans. Moi, je décide que je me bâtis une fusée, je pars pendant 25 ans. Et pour, pendant que je vais partir, ce que je décide de faire, je décide d'engager 3 personnes qui vont s'occuper de ma femme, de mes enfants, de mes biens, mes affaires. Eux autres, là, ils vont voir est-ce qu'il manque rien. Et là, je leur dis, parfait, chacun des trois, là, à chaque mois, je dépose 10 000 $ dans votre compte. Chaque mois. Ce que je vous demande, c'est de vous occuper de mon épouse. Vous allez, à chaque mois, prendre 1 000 $, puis vous allez lui donner. Chacun. Je vous demande ça. Le 9000 qui reste, vous le gérez comme vous voulez. Vous me suivez? Est-ce qu'il y en a un qui va arriver qui va dire, Marie-Josée, je veux que tu vois à quel point je suis généreuse le mois-ci, je te donne 1000$. Ma femme va probablement dire, c'était pas ça qu'il avait déjà demandé? Et où la générosité là-dedans? C'était pas ça qu'il t'avait déjà demandé en partant? Quand Dieu parle de la dîme dans la Bible, il en parle comme si elle lui appartenait déjà, cet argent-là. Il dit, dans Lévitique, au 27e chapitre, verset 30, ça dit, on devra consacrer au Seigneur un dixième des produits de la terre, c'est-à-dire des revenus. C'est la part qui lui est réservée. C'est déjà à lui. Je suis pas généreux d'y donner. C'est à lui. Je peux pas me vanter d'être généreux. Hey, regarde comment je suis généreux. Moi, je donne un dixième à Dieu. C'était pas déjà à lui? Oui, c'est à lui. C'est généreux, ça. J'ai pris ces trois personnes-là que j'ai engagées pour dire, vous faites comme vous voulez que le 1000, mais le 1000, vous le donnez à mon épouse pour qu'elle s'occupe, puis tout soit. Mon doux, je sais comment c'est difficile ce que je suis en train de vous dire. Mais imaginez qu'à chaque fois que l'on reçoit 10$, j'ai emmené ici quelque chose, et j'avais le goût de faire le test avec mes enfants, mais finalement, j'ai pas eu le temps. J'ai 10$ ici, OK? 10$, vous me suivez là? Je vais y compter juste pour être sûr, je suis pas un tour de magie là. 2, 4, 6, 8, 10, OK? Allô? Tout le monde, ben parfait. Il y en a 10. Je vous donne 10$. Puis je vous dis, le premier dollar là, que t'as là, je voudrais que tu me le donnes. Qui va à moi. Les 9 autres dollars, c'est à toi. Comment vous gérez ça? Hey, je suis généreux? Ou, wow, t'es bien généreux avec moi. Dieu dit, à chaque fois que tu gagnes ça, je voudrais que tu prennes ça, là, puis que tu me le donnes. Pourquoi qu'il veut ça? Pourquoi? Est-ce que Dieu, c'est un malade, il court après mon argent? Pas en tout, il n'a pas besoin. Pourquoi est-ce que Dieu demande le premier parti, le premier 10? Pourquoi il demande ça? Pourquoi est-ce que Dieu veut que j'y donne ça? C'est pour qu'on puisse... Ce que Dieu essaie de faire, c'est de continuer à démontrer que ça lui appartient. Est-ce que j'ai ton cœur? Parfait, donne-moi le premier. Pour être sûr que tu gardes, ça reste pas attaché à toi, ça. Mais combien de combats on a? Parce que ça, c'est attaché à notre cœur. C'est nos richesses, nos possessions, notre argent. J'ai travaillé pour ça. C'est vrai. Qui t'a donné la job, non? Qui t'a donné la santé pour y travailler? Qui t'a donné le cerveau pour réfléchir? Et Dieu dit, je veux juste que tu te souviennes que c'est à cause de moi que tu l'as. Et pour ça, pour couper ce lien-là, donne-moi le premier dollar. Donne-le-moi. Je veux que tu me le remettes. En fait, pas que tu me le remettes. Je te donne 9. Je garde 1. C'est un principe. Quand vous remarquez dans la Bible, lorsqu'il est mention du principe de dîme, vous verrez jamais la mention « donner la dîme ». C'est toujours « apporter », « rapporter », « redonner ». Dans le sens, ça lui revient. C'était même pas à toi en partant. C'était à lui. Je peux pas donner quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est pas à moi. Je peux pas te le donner, c'était déjà à toi. Prends-y un instant. C'est comme vous me donnez une partie de quelque chose, mais il y a une partie qui est à vous. Puis je dis, ah, je vais te la donner, cette partie-là. Tu me la donnes pas, elle est à moi. Et c'est pour ça que je vous dis, la 10%, c'est un point de départ. Parce que ça appartient déjà à Dieu. C'est même pas à nous, cette partie-là. C'est la sienne. Maintenant, je sais, je comprends tout. Je comprends toutes les pensées qui traversent vos têtes. Je veux vous compreniez que je suis pas en train de dire que d'apporter la dîme, c'est pas généreux, c'est pas une bonne chose. Pour certains, c'est peut-être la chose la plus généreuse que vous pouvez faire dans votre vie en ce moment. C'est ce que je veux vous compreniez. Simplement parce que tu as peut-être décidé de prendre ce pas de foi-là puis de faire confiance à Dieu. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis en train de vous amener un instrument de mesure. La Bible nous le mesure. Parce qu'on dit, ouais, comment savoir qu'on est généreux? Ben, 10, c'est la base. C'est à partir de là qu'on grandit dans notre générosité. C'est là que ça se développe, la générosité. Générosité, c'est ce que tu donnes de ce qui t'appartient à toi. Pas à quelqu'un d'autre. Facile d'être généreux avec les affaires des autres. En fait, c'est pas de la générosité, c'est de l'insouciance, là. C'est pas à moi, cet argent-là. Ben, prenez-les, tiens, prenez tout ce que vous voulez. C'est pas donné, ça. C'est pas de la générosité, ça. Généreux, c'est quand ça part de moi, ça m'appartient, c'est quelque chose que je suis posé d'avoir et que je donne. Je choisis de donner. Mais pour progresser dans la générosité, éventuellement, tu passes au-delà du 10%. Et c'est pour ça que j'ai dit tantôt, puis je le répète, la générosité est un pourcentage et c'est progressif. Vous me suivez? La générosité, c'est un pourcentage et c'est progressif. C'est le point, c'est pas le point d'arrêt, c'est le point de départ. Et quand tu saisis l'enseignement de la pauvre veuve que Jésus est en train de donner et que Jésus n'est pas impressionné parce qu'elle donne 10%, il est impressionné parce qu'elle donne 100%. Jésus, il fait comme « Wow! » Et là, je veux que vous compreniez, s'il vous plaît, puis si vous m'écoutez, peu importe, je ne suis pas en train de dire que vous devez donner 100%. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Je veux juste que vous compreniez. Par exemple, il a dit « Vous donnez 100%. » Non, j'ai pas dit ça. Moi, je dis rien. Dieu dit plein de choses. Moi, je suis le messager. Maintenant, on arrive à notre deuxième point. Deuxième point. La générosité, c'est de progresser au-delà de la dîme. Et regardez bien ce que Paul a donné comme instruction à l'église de Corinthe. Notre église de tantôt, là, qui reprend. Quand vous lisez Corinthe, c'est tout. Paul est en train de dire, voici comment pas faire. Il corrige une église. Et dans 1 Corinthiens, 16e chapitre, verset 2, il dit ceci, dans la version Semeur. Que tous les dimanches, en fait, dans certaines versions, vous avez le premier jour de la semaine. Que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté, chez lui, une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné. C'est-à-dire proportionnel à son revenu. Pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. Paul est en train de dire, mettez de l'argent de côté pour quand on va ramasser l'offrande. Chaque semaine. Que chacun mette de côté un montant en proportion, c'est-à-dire selon la progression que lui a dans sa relation avec Dieu aussi. Je suis pas en train juste de vous enseigner ça, je veux vous le dire. C'est quelque chose que je mets comme plan dans ma vie de progresser. Je veux progresser dans mes dons avec Dieu. Je veux le faire. Je mets un plan en avant. Les moments où, savez-vous ce qui est fou? Les moments où ça s'est mieux passé financièrement dans ma vie, c'est le moment où j'apportais fidèlement mon 10% à Dieu. C'est fou. Parce que Dieu a une façon, c'est comme si Dieu dit, « Hey, tu sais quoi? Avec le 90, tu vas en faire bien plus qu'avec le 100 sans moi. » C'est ça que Dieu dit. Si tu me fais confiance, tu vas voir, tu vas être encore. Et c'est fou, parce que Dieu apporte cette espèce de bénédiction-là qui apporte, puis pas juste une question de plus de chèques d'argent, mais des fois, toutes sortes de façons assez spéciales où, combien de fois, on arrive au magasin puis c'était, écoute, c'était un spécial juste à ce moment-ci, les frères que t'avais besoin, ça tombait en spécial devant tes yeux. T'arrivais puis tu trouvais exactement ce que tu cherchais dans une friperie ou dans un endroit où on faisait comme, mais voyons donc, comment ça se fait? Ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est les miracles que Dieu agit, ça. Dieu trouve une manière de te bénir à travers ça parce que t'as fait confiance à Dieu. T'as mis, tu dis, Seigneur, je vais suivre ce que tu me demandes. Pour moi, j'aime pas ça parce que mon cœur est tiraillé comme ça. Pas de bon sens. Ça me fait mal. Mais je vais choisir plus confiance en toi qu'en mes richesses. Tiens, lève-la. Il me reste quand même 9$. C'est fou. Dieu trouve une manière de nous bénir. Je vais inviter Olivier, on va terminer. En fait, je vais vous arriver avec cette dernière phrase. Tu ne peux pas donner plus que Dieu donne. Vous trouverez jamais une personne qui a des problèmes financiers et qui s'est dit, ça y est, je suis arrivé, j'ai réussi, j'ai dépassé Dieu. J'ai donné plus que lui, c'est pour ça que je suis en banqueroute. Vous trouverez jamais une personne qui comme ça. Ça arrivera jamais. Tu peux pas dépasser la source de tout. Tu ne peux pas dépasser la source. C'est lui la source de toute chose. Vous vous souvenez de mon histoire tantôt quand je pars dans l'espace, là? J'ai laissé 3 personnes s'occuper de ma femme, etc. Vous vous souvenez de ça? Vous étiez là? Et si je pouvais prendre un téléphone, satellite en quelque part, je réussis à passer à travers de 2-3 planètes, puis là, ça passe, le courant passe, la ligne passe, puis je peux appeler mon épouse. Puis j'ai dit, puis comment ça se passe avec les 3 personnes? Puis elle me dit, c'est OK. Le premier apporte le 1000$ fidèlement, c'est correct, ça va bien. Le deuxième, c'est spécial. Parce qu'il a donné 1000$ au début, mais après un certain temps, il a augmenté à 1500. Puis là, il est rendu à 2000$ par mois qu'il me donne. J'ai dit, wow. Puis pour le troisième, au début, il était fidèle. 1000$ par mois, oui. Puis elle m'a dit, oh, puis t'es tombé à 500. Oh, puis là, il n'y a plus rien. Réfléchissez. Moi, là, en tant que source qui donne l'argent à ces 3 personnes-là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais agir? Comment je vais penser? Tu prends pas soin de mon épouse puis mes enfants? T'es pas en train de t'occuper de ce que je t'ai demandé? La seule chose que je t'ai demandé, je te donne 10 000 $. Je te demande d'en donner 1000 à mon épouse. Il est bien possible que je donne à celui qui en donne beaucoup à mon épouse. Mais pourquoi je dois faire ça? Pas pour lui puis en donner plus parce que je veux qu'il soit plus riche, mais parce qu'il est généreux, point. J'ai trouvé une personne généreuse, j'ai trouvé une personne qui va partager mes ressources, qui va se préoccuper de ce qui est important pour moi. Quelques jours après l'épisode de la veuve qu'on a vu dans l'histoire de Marc, Jésus va dire à ses disciples, « Je m'en vais pour un bon bout. Je m'en vais faire un long voyage. Je vais revenir. Je voudrais que vous preniez soin de mon épouse. » Qui est l'épouse de Jésus? Éphésiens 4. L'Église. Rien n'est plus important pour Dieu que ce moyen qu'il a choisi de propager son message aux humains. L'Église, c'est-à-dire l'Église locale. Parce que pour vrai, je veux vous comprendre une chose. Dieu est la source de tout. Il génère les revenus, il génère la santé. Il peut nous donner ce qu'il veut. Il peut nous enlever ce qu'il veut. Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Gloire à Dieu. Wow, ça c'est un processus assez long à rassembler. Ça se fait pas comme ça, ça. Oh wow, Dieu m'a tout enlevé, super. Tellement content. Tellement heureux. Pense pas. Ça passe pas comme ça. Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais. Mais pendant que je suis parti, je veux que tu t'occupes de mon épouse, l'église locale. Je veux que tu en prennes soin. Je veux que tu t'occupes de mes enfants. Je veux que tu en prennes soin. Et je vais te donner des ressources pour le faire. Mais si tu ne t'occupes pas de ma femme et mes enfants, je ne peux pas t'en donner plus des ressources. Je vais arrêter de t'en donner. Je vais en donner à celui qui en a plus. Pourquoi? Parce qu'il par là, ça passe. Je peux donner et ça se rend. Je peux donner et il se passe quelque chose. Je peux donner et l'Église est pris soin. Mon épouse est pris en charge. Mes enfants sont pris en charge. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors pourquoi telle personne semble bénie de Dieu? Ça arrive. Des faveurs spéciales. Pourquoi? Parce que c'est la confiance et l'obéissance en Dieu. C'est tout. Et c'est pas quelque chose de facile. Demandez à n'importe quelle personne qui arrive là, il fait pas. C'est pas comme ça que ça se passe là. C'est progressif. Avant de terminer, je veux juste dire quelque chose. Je parle pas de comment l'importance de l'église locale est d'en prendre soin puis de porter les dîmes. Je dis pas ça parce que je travaille ici. Là. Je veux vous compreniez une chose. Là. Si vous pensez ça, ne serait-ce qu'un moment que quelqu'un ici essaie d'obtenir des choses de vous, je préfère que vous alliez dans une autre église, dans laquelle vous avez confiance, mais que vous apportiez vos dons, vos dîmes, et que vous avez pleinement confiance. Parce que la réalité, c'est que je vois, comme pasteur, je veux pas que tu te prives de la bénédiction que Dieu a pour toi. Je veux pas que tu sois dépourvu de ce que Dieu veut te donner. Sois, fais confiance à Dieu. Genre, en concluant cette série-là, un peu comme la semaine dernière avec la feuille que je vous ai partagée, prenez le temps de regarder avec Dieu. C'est quoi la prochaine étape pour toi? C'est quoi le prochain pas? Comment tu peux lui montrer à faire confiance? Demande-lui ce qu'il veut pour toi dans, comme générosité. Peut-être que c'est d'apporter la dîme, puis déjà là, c'est un acte de foi pour une première fois extraordinaire et hallucinant. De lui montrer que tu as confiance. Je sais pas c'est quoi pour toi avec Dieu. C'est toi, tu le sais. Peut-être c'est d'aller au-delà du 10% que tu es rendu, d'augmenter. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que comme pasteur, ne manque pas la bénédiction que Dieu a pour ta vie. Manque pas ça. Prive-toi pas de ce que Dieu veut te donner. Aie confiance en lui. Écoute sa voix. Peut-être que s'il dit, commence par ça, moi. Fais ça, occupe-toi de ça. Mais mesure avec lui. Fais la mesure. Évalue où est rendue ma générosité.
Merci d'avoir pris le temps de télécharger ce message. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.eglisem.com www.eglisem.com. Dieu vous guide et vous bénisse. Bonne semaine.